Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europa 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, ravie à l'idée de partager avec vous. Vous le savez sans doute, le premier TGV d'Afrique a été inauguré cette semaine au Maroc. On sera à Casablanca dès le début de ces carnets pour entendre les Marocains, ceux qui se réjouissent que Tanger ne soit qu'à 2 heures de Casa, et puis ceux qui trouvent qu'il y avait vraiment d'autres priorités aujourd'hui dans un pays qui vit une crispation sociale. Et tant qu'on sera sur les rails, on se plongera aussi dans un univers ferroviaire très particulier. Les gares et les trains japonais, c'est une véritable expérience sonore à laquelle on vous convie. Puis on partira tous en randonnée sous le soleil d'Égypte. Ce sont les tribus bédouines du sud Sinaï qui nous guideront. Elles se sont associées pour faire revenir les touristes dans ces montagnes magnifiques, dépaysement assuré, comme si vous y étiez. Et ce n'est pas tout, on filera ensuite en Guadeloupe retrouver Corinne Boulou sur l'arrivée de la route du Rhum, mais pas pour parler bateau cette fois.
Au début, on pensait que c'était, des œufs pourris ou quelque chose comme ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des algues brunes qui étaient sur la plage et qui dégageaient une odeur vraiment immonde. Donc, il y a des moments où on avait des haut-le-cœur, c'était vraiment horrible.
Les algues à l'odeur d'œufs pourris dégagent des vapeurs toxiques. Ce sont les sargasses, on va tout vous raconter. Enfin, le Murakami nouveau est arrivé. Nicolas Caro ne rate jamais les romans du géant de la littérature japonaise. Quant à Joseph Chovanec, il n'aime pas être en retard. Problème, c'est une notion bien relative dans le monde. Les carnets sont ouverts. Destination, le Maroc. C'est une première en Afrique. Le Maroc a inauguré jeudi la première ligne à grande vitesse du continent en présence d'Emmanuel Macron, présent pour l'occasion aux côtés du roi Mohamed VI. Les villes de Tanger et Casablanca sont désormais reliées par un TGV 200 km de ligne qui ne fait pas que des heureux, vous allez l'entendre. Reportage à Rabat et Casablanca de notre correspondant au Maroc, Alexandre Roublan.
Il s'appelle Al-Borak, le cheval ailé du prophète dans la tradition musulmane. Grâce à ce TGV, Tanger n'est plus qu'à 2 heures de la capitale économique, contre près de 5 auparavant. Un gain de temps qui séduit Khalid, un architecte rencontré à la gare de Casablanca.
Pour moi, au niveau professionnel, c'est bien évidemment magnifique. Puis ça sera quand même moins cher que si je prends la voiture.
Première ligne à grande vitesse en Afrique, le TGV marocain fait aussi la fierté de nombreux habitants comme Mohamed, un publicitaire, et Sana, une avocate.
Le Maroc aujourd'hui, c'est une vitrine pour les pays africains. Ça va encourager pas mal d'investisseurs étrangers à venir au Maroc, à s'installer.
Au Maroc, c'est la porte de l'Afrique, donc c'est logique qu'on essaie en tout cas de se mettre au même niveau que l'Europe au niveau des infrastructures. Je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes dans un premier temps, mais qu'il faut mettre le pied à l'étrier et essayer de se développer.
Et pour s'offrir son TGV, le Maroc a dépensé 23 milliards de dirhams, plus de 2 milliards d'euros, une somme prêtée en partie par la France et plusieurs pays du Golfe. Un investissement qui concerne les villes les plus riches du Maroc, Casablanca, Rabat, Tanger, alors que d'autres régions, elles, ne sont pas encore connectées au réseau ferré. C'est ce que regrette Nadia, une chercheuse en sciences politiques rencontrée à la gare de Rabat.
Tanger-Rabat, oui, c'est très bien. Enfin, dans l'absolu, un TGV, c'est toujours très bien. Je veux dire, un avion supersonique, c'est 15 fois mieux qu'un avion de ligne courant. La question, c'est quelle est la capacité qu'a le Maroc à financer ce type d'infrastructure au détriment de quelle autre infrastructure ? On est aussi dans un pays où on ne peut pas aller à Rachidia en train, on ne peut pas aller à Agadir en train. Donc, on concentre énormément d'infrastructures sur une petite partie du Maroc. Évidemment, c'est celle qui génère aujourd'hui le plus grand revenu, mais quid des autres régions ?
Et du côté des plus sceptiques, on estime qu'il aurait mieux valu investir dans l'extension du réseau et surtout renforcer la qualité du chemin de fer existant. Le mois dernier, un déraillement a coûté la vie à 7 personnes dans la petite ville de Bouknadel. La version officielle a pointé la responsabilité du conducteur. Mais pour Omar Eliani, élu de la ville de Rabat et membre de la Fédération de la Gauche démocratique, ce drame illustre surtout la vétusté du réseau de l'ONCF, les chemins de fer marocains.
Quand on prend souvent le train, on remarque que le réseau commence à être de plus en plus vétuste. L'entretien a été délaissé. Autre point, c'est qu'il n'y a aucune rame qui a été achetée par l'ONCF, aucune nouvelle rame depuis au moins une dizaine d'années, mis à part les rames TGV, bien entendu. Et ça se ressent auprès des usagers. Des pannes très fréquentes des rames, des ruptures de caténaires, des portes ne s'ouvrent pas très très souvent dans les trains. Après, il y a un problème de sous-capacité. Vous avez très souvent des trains qui sont très encombrés, surtout sur les grandes lignes, vers Marrakech, vers Fès, vers Tanger, vers Oujda. Et on pense que tout cet argent-là aurait pu servir à renforcer justement l'offre ferroviaire au Maroc au lieu d'investir très très lourdement dans une seule ligne à la rentabilité très très douteuse et à l'impact très douteux.
Ce TGV est la seconde infrastructure la plus chère de l'histoire du Maroc. Trois présidents français, Sarkozy, Hollande et Macron, se sont déplacés pour en suivre la réalisation. Membre de Transparency Maroc, Fouad Abdelmoumni estime pourtant que le plus important manque à l'appel. Ni consultation, ni débat. Selon lui, ce TGV est tout sauf transparent.
Dans un pays normalement constitué, ce genre de décision est précédé par un débat large qui clarifie quels sont les objectifs, quels sont les enjeux, quels sont les budgets, quels sont l'ensemble des impacts, quelles sont les options en termes économiques, technologiques, etc. Toutes ces questions-là n'ont absolument pas été effleurées au Maroc parce que c'est une décision qui est tombée du ciel. Un jour, M. Sarkozy visite le Maroc et on nous annonce que le Maroc a décidé d'acquérir le TGV, et qui plus est, chez des compagnies directement choisies de gré à gré, et non pas par compétition, appel d'offres internationales, etc. D'ailleurs, la Banque européenne d'investissement avait eu le veto allemand dans son conseil d'administration pour le financement de l'opération au début, parce que, justement, il n'y avait pas eu de compétition.
Et la question que tout le monde se pose désormais, c'est combien va coûter le prix du billet. L'ONCF affirme qu'il sera 30% plus cher que le tarif pratiqué jusqu'à présent, environ 210 dirhams, soit un peu moins de 20 euros pour un aller simple, avec un objectif affiché de 6 millions de passagers par an. Casablanca, Alexandre Blanc, Europe 1.
Alexandre Blanc, qu'on retrouve pour aller un peu plus loin sur le sujet. Vous êtes en ligne depuis Casablanca. Bonjour Alexandre.
Bonjour Sophie.
On a entendu des critiques très claires. Mais quels pourraient être les impacts économiques de cette première ligne de TGV ?
Alors du côté de l'ONCF, l'Office marocain des chemins de fer, on considère que cette ligne à grande vitesse, c'est pas seulement un train. On parle d'un outil qui va impacter la croissance, la démographie, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, avec à la clé une meilleure attractivité. Alors ça, ce sont pour les éléments de langage, mais du côté des chefs d'entreprise, on y croit. Au nord, la zone franche de Tanger, avec ses centaines d'entreprises, beaucoup sont françaises d'ailleurs, comme Renault, qui construit ici la Dacia. Un peu plus au sud, il y a Kenitra, où PSA est installé, et puis il y a les centres d'affaires de Rabat et de Casablanca. Alors tout ça est désormais relié en 2 heures maximum, avec la possibilité de faire l'aller-retour en train dans la journée, ce qui était impossible, alors très compliqué jusqu'à présent.
Alors ça, c'est le Maroc des affaires, dans un contexte global qu'il faut rappeler, beaucoup plus complexe, avec une crispation sociale de plus en plus palpable au Maroc.
Oui, c'est vrai, le Maroc a connu depuis 2 ans des mouvements de protestation assez intenses, avec des manifestations, d'abord au nord, dans le Rif, cette région montagneuse, plutôt pauvre, qui a longtemps été délaissée par l'État. Et puis un peu plus à l'est, à Jerada, une ville de mineurs qui travaille dans d'anciennes mines de charbon. Des soulèvements ont eu lieu là aussi pendant plusieurs mois. Alors tout ça, ça intervient avec en toile de fond des problèmes qui sont récurrents au Maroc et qui touchent une grande partie du pays. C'est le manque d'hôpitaux et d'écoles notamment. C'est ce que dénoncent surtout les opposants au TGV, en fait, qui ont fait le calcul. Avec 23 milliards de dirhams, le budget du TGV, le Maroc aurait pu s'offrir entre autres 25 000 établissements scolaires, 16 000 bibliothèques et 25 CHU.
25 CHU, donc gros hôpitaux. Comparaison n'est pas raison, mais tout de même, il faut bien reconnaître que c'est extrêmement parlant. Merci beaucoup Alexandre pour ce décryptage. À très bientôt dans les carnets.
À bientôt Sophie.
Europe 1.
On reste en gare, mesdames, messieurs, 2 minutes d'arrêt, puis on s'engouffrera dans les trains japonais. Préparez-vous à un voyage sonore.
Europe 1, les carnets du monde.
Cap à l'Est, Sophie Larmoyer, c'est au Japon que vous nous emmenez maintenant.
Ce tout premier TGV du continent africain au Maroc nous a donné des envies de voyage sur les rails dans les carnets. Alors attention, on change de continent pour s'immerger dans les trains japonais. Et c'est énorme. Le Japon, c'est 2700 km de lignes de TGV avec 400 millions de passagers par an. C'est l'un des réseaux les plus fréquentés au monde. Et plus de 20 000 km de voies ferrées pour le réseau normal. Tout le monde prend le train là-bas, mais surtout... Vous allez l'entendre, l'univers ferroviaire nippon, c'est vraiment une ambiance sonore particulière. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Et alors c'est un véritable périple musical que vous nous conviez dans les trains japonais aujourd'hui.
Ah oui, c'est vraiment une marque de fabrique ici. Vous ne pouvez pas passer à côté de petites mélodies diffusées dans toutes les gares. Comme celle-ci par exemple, à Tokyo, sur la ligne Yamanote, 1 million d'usagers chaque jour. On entend notamment ceci.
Ce sont des petits jingles en fait, Bernard.
Mais oui, des mélodies de quai qui signalent aux usagers l'entrée des trains en gare et leur départ. En voici quelques autres, j'ai sillonné les gares pour vous. Et donc ces petites musiques, elles ont vu le jour au début des années 70. Pour remplacer la sonnerie stridente ou la cloche qu'agitaient les agents de quai. L'idée était alors d'informer les usagers de façon plus mélodieuse. Aujourd'hui, la plupart des gares ont leur propre jingle qui marque leur identité musicale. Et énormément de Japonais en raffolent.
Ouais.
Beaucoup d'ailleurs utilisent leur mélodie préférée comme sonnerie de téléphone. Et certains parcourent le pays tout entier dans le but de se constituer une bibliothèque sonore de tous ces jingles. Ouais. Auxquels on consacre même des jeux concours très populaires, de type blind test. Le but du jeu, c'est d'identifier le plus vite possible à quelle gare se rapporte quelle mélodie.
Et en plus de ces jingles, autre volet incontournable de l'univers sonore des trains japonais, ce sont les annonces faites aux voyageurs. Ça n'arrête pas, Bernard.
Ah oui, là, continuellement, les usagers sont informés de ceci ou de cela, invités à faire ceci, priés de ne pas faire cela. L'annonce la plus attendue, le train arrive, éloignez-vous du bord du quai. Ou ici, prenez garde à la fermeture des portes. Veillez à ne rien oublier à bord en descendant du train. Et veillez à ne pas stationner devant les portes après être entré dans la rame. Et Sophie, tant d'annonces sont diffusées que parfois elles se chevauchent. Et là, on s'y perd un peu.
Oh là là, mais c'est limite cacophonique, ça doit rendre dingue ça, non?
Mais certains Japonais adorent en tout cas, comme ce jeune père de famille par exemple.
Ces jingles me mettent de bonne humeur à chaque fois, j'y tiens beaucoup. C'est pareil pour les annonces faites aux voyageurs, moi ça me rassure d'être informé en temps réel du moindre problème. D'ailleurs, dernièrement je suis parti en vacances à Paris en famille, et bien le fait qu'il y ait si peu d'informations données dans le métro ou dans le RER, ça nous a vraiment beaucoup stressés.
Cela dit, il y a aussi des Japonais qui ont horreur de ce brouhaha informatif permanent. Notamment parce que toutes ces annonces sont diffusées à un niveau sonore assourdissant. Un Japonais sur trois étant âgé de 65 ans ou plus, pas mal d'usagers sont censés être durs d'oreille. Donc, les sociétés de transport poussent au maximum le niveau sonore de leurs haut-parleurs.
Ah, c'est dingue.
Ce qui énerve beaucoup de gens, dont ce retraité.
Tout ça, moi, ça me casse les oreilles. Ici, dans les 2 minutes qui précèdent l'entrée d'un train en gare, on l'annonce au moins 5 fois sur le quai. Mais enfin, les Japonais ne sont pas débiles. Les prévenir une seule fois, ça suffit. Bref, ce vacarme est vraiment insupportable.
On peut dire, Bernard, que cet univers sonore si particulier ne fait pas l'unanimité, en tout cas.
Non, d'autant que pas mal de recommandations faites aux usagers sont franchement puériles. Par exemple, en ce moment, l'avis qui est affiché partout met en garde les voyageurs de ne pas, tenez-vous bien, incommoder les autres usagers avec l'eau qui dégouline de leur parapluie trempé. Ce qui agace notamment cette femme au foyer.
Dans les transports comme partout, beaucoup de Japonais sont stressés. Ils détestent l'imprévu, on leur hantise du moindre incident. Donc les mettre en garde sans arrêt, ça ne les rassure pas, ça les stresse encore plus. Et puis beaucoup de ces conseils tombent tellement sous le sens qu'ils sont très infantilisants.
dans les gares japonaises. Je résume, il y a des mélodies, les messages en boucle, mais c'est pas tout. Il y a les hommes aussi, notamment les appels de vendeurs, Bernard, qui essayent d'appâter les clients. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Oui, parce qu'au Japon, beaucoup de gares sont en même temps des centres commerciaux. D'ailleurs ici, certains grands magasins sont aussi exploitants de lignes de chemin de fer qui portent leur nom. Ils ont créé ces lignes pour faciliter la venue des clients. Un peu comme si dans le RER parisien, il y avait une ligne BHV ou une ligne Galerie Lafayette. Donc, aux heures de pointe, les gares nippones sont envahies par une armada de vendeurs équipés de micro-casques avec ampli qui se démènent pour attirer les clients. Et ça donne à peu près ça. Alors là, par exemple, devant une pâtisserie, des vendeurs tentent de faire acheter des melon pan, les pains au melon, et des shukurimu, les choux à la crème, dont les Japonais raffolent.
Quelle ambiance! Moi, je crois que je ne supporterais pas. Cela dit, Bernard, dans tout ce brouhaha ferroviaire japonais, il est très rare qu'on entende certains sons qui, chez nous, agacent si souvent les voyageurs.
Oui, les smartphones, par exemple. Ici, tout le monde se met d'office sur vibreur en montant dans le train. Ouais. Par ailleurs, jamais un Japonais n'osera raconter sa vie au téléphone. On ne parle pas devant les autres.
Oui.
Et puis, vous savez, cette musique qui s'échappe du casque de votre voisin de banquette, si fort que vous reconnaissez la chanson. Eh bien, ça aussi, c'est inimaginable au Japon.
On termine ce voyage, Bernard, par une petite mélodie bucolique que vous nous avez débusquée.
Eh oui, les haut-parleurs de beaucoup de gares ici diffusent des gazouillis d'oiseaux pour détendre un peu l'atmosphère, sans doute. Alors, dans tout ce vacarme ferroviaire, il faut vraiment tendre l'oreille pour réussir à les entendre, mais quand on y parvient, ça fait toujours bien plaisir.
Merci Bernard pour ce périple musical dans les gares et les trains japonais. Je précise toutefois qu'il existe des trains au Japon super silencieux, ambiance calme et feutrée.
Oui, ce sont les TGV nippons, les Shinkansen. On ne dérange pas les hommes d'affaires qui les empruntent.
Tiens, tiens. Merci beaucoup Bernard et puis à une prochaine fois dans les carnets. À bientôt.
Merci Sophie, à très bientôt.
Europe 1.
Ne bougez pas, ne changez rien, gardez ces accents nippons dans les oreilles. Dans un instant, on parle littérature avec un géant japonais justement.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec vous, Sophie Larmoyer. Et c'est le moment de parler littérature étrangère, Sophie.
Les auteurs font de nous de grands voyageurs. Il suffit souvent de plonger dans leurs bouquins, n'est-ce pas, Nicolas Caro ? Bonjour.
Absolument. Bonjour, Sophie.
Le dernier roman d'Haruki Murakami, c'est toujours un événement. L'écrivain japonais revient, Nicolas, non pas avec un, mais avec deux livres.
Et oui, ça s'appelle « Le meurtre du commandeur ». Et il y a effectivement deux tomes. C'est chez Belfond, comme toujours, c'est dingue. Avec Murakami, on lit une ligne et ça y est, immédiatement, on se retrouve dans un univers familier. Tout de suite, il nous plonge dans son atmosphère semi-magique.
Semi-magique, c'est-à-dire ?
C'est sa marque de fabrique. Murakami décrit des univers, des personnages et des histoires réalistes, mais il y ajoute souvent un soupçon d'irréalisme, un léger décalage comme un rêve éveillé.
Et alors, son rêve éveillé dans ce roman, c'est quoi ?
Alors, nous sommes en pleine montagne, dans un coin reculé, perdu au fond, il y a une maison isolée de tout. Rentrons, elle était pleine de livres et de disques. Cette maison appartenait à un génie, un peintre. Maintenant, il est à l'hôpital, il a 92 ans, il a perdu la tête, mais la maison n'est pas vide. Le narrateur, un jeune peintre, y a trouvé refuge. Sa femme l'a quitté. Il est un peu perdu lui aussi, comme la maison. Il doit faire le point sur tout, sur sa vie et son œuvre. Et pour gagner sa vie, justement, il accepte de peindre le tableau d'un homme d'affaires. Mais c'est bizarre. C'est comme s'il n'arrivait plus à représenter le réel. C'est très étrange pour lui. Un jour, dans le grenier, il trouve un tableau intitulé « Le meurtre du commandeur ». La figure du commandeur, vous savez, celle de Don Juan, Don Giovanni, de Mozart, le fantôme, la statue qui demande à Don Juan de se repentir. Ça nous plonge bien dans l'ambiance, là, hein. La musique transcrit bien l'atmosphère du tableau. Une violence se dégage de ce meurtre du commandeur. Un mystère aussi. Pourquoi le peintre a-t-il peint ce tableau et pourquoi l'a-t-il remisé au grenier ?
Pourquoi ?
Vous lirez pour savoir. Avec cette liberté qui caractérise le style Murakami, y compris avec le langage, dans son écriture même, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au sein d'une seule phrase, on bascule parfois à cause d'un mot, d'une formulation, dans un décalage. Et puis il y a ce personnage du tableau. parce que je vous ai pas dit, mais il parle, le tableau. Ah. Le commandeur en est sorti, il parle au jeune peintre, mais avec un langage bien à lui. Ça a donné du fil à retordre à Hélène Morita, la traductrice.
Je rends hommage ici à mon amie japonaise qui m'a beaucoup aidée, Tomoko Ono, là, pour la traduction de ce meurtre du commandeur. Parce que malgré tout, il y avait un langage pour un des personnages, enfin le commandeur lui-même, là, parle d'une façon absolument délirante. Et nous avons travaillé ensemble pour transposer ces nuances incroyables qu'il y a en japonais. C'est un langage, semble-t-il, que Murakami a voulu en dehors du temps. Il est à la fois marqué d'archaïsme, de préciosité, d'abstraction. Et en même temps, il est familier, presque grossier et complètement contemporain. Il défie également la grammaire. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas vraiment de pluriel et de singulier. Il y a des passages brusques d'un ton à un autre, etc.
Pas toujours facile, non, le métier de traductrice. Vous avez un exemple ?
Oui, à la première rencontre, le commandeur est sur le canapé du salon, tranquille, et je le cite. « Et pour toi, messieurs, j'ai pensé que ça te causerait à coup sûr des tracasseries. Ouida, ce serait point réglo pour toi que les tapis ou les meubles soient tachés de sang. Donc, dans l'immédiat, j'ai laissé tomber le réalisme et opté pour la version sans blessure. Meurtre du commandeur moins meurtre égale moi. » Faut s'accrocher quand même. Donc bravo, c'est pas tout le roman évidemment. Ouf. Donc bravo à la traductrice, c'est pas toujours facile. C'est un roman en tout cas dans lequel on retrouve tout Murakami. Par exemple, le propriétaire des lieux, le génie japonais, est un homme très discret qui fuit les représentations publiques, il préfère rester bien à l'abri dans son œuvre. Et ben en fait, c'est un portrait qui ressemble étrangement à un autre artiste japonais, Murakami lui-même, connu pour sa discrétion.
Il est certain qu'il a construit une sorte de chrysalide, une sorte de cocon, qui est toute sa création romanesque. Ce qui compte pour lui, ce qui est important pour lui, c'est ses textes, ce sont ses romans, c'est la narration qu'il imagine, c'est les personnages qu'il a bâtis. Mais sûrement pas son opinion sur tel ou tel événement, tel ou tel incident.
Un grand timide, quoi, en fait.
Exactement. Mais Murakami, c'est bien plus qu'un simple raconteur d'histoire. On sort de ses livres avec une nouvelle vision du monde. En l'occurrence, la morale de ce livre, c'est que même si tout est vain, l'art nous sauve.
Et il est donc urgent de le lire, si je comprends bien. Le meurtre du commandeur, livre 1 et 2, c'est chez Belfond, traduit donc par Hélène Morita. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Sophie. Europe 1.
Enfilez vos chaussures de rando, attrapez votre boussole. Dans un instant, on part en vadrouille ensemble dans les montagnes du Sud Sinaï.
Europe 1, les carnets du monde.
J'espère que vous êtes prêts pour un grand bol d'air. Destination l'Égypte, toujours avec vous Sophie Larmoyer.
Aujourd'hui dans les carnets, on vous emmène en randonnée dans une région désertique et montagneuse où peu de touristes s'aventurent alors qu'elle regorge de trésors et de mythes. C'est le Sinaï égyptien, une péninsule qui fait deux fois la taille de la Belgique et qui est mentionnée à la fois dans le Coran et dans la Bible pour avoir accueilli Moïse et ses tables de la loi. Mais depuis 4 ans, les échos des affrontements entre Daesh et l'armée égyptienne tout au nord du Sinaï ont fait chuter le tourisme dans le sud, pourtant éloigné des combats. Alors pour attirer de nouveau les touristes autour du Mont Sainte-Catherine, 8 tribus bédouines se sont associées et ont créé le plus long circuit de randonnée du monde. Ça s'appelle le Sinaï Trail, 500 km. Ariane Lavrieux en a parcouru 30 pour nous. Ouvrez grand vos oreilles, c'est comme si vous y étiez. Reportage.
Là, il fait 26-28 degrés.
Ok, donc il est 10h. Et là, il fait déjà 28 degrés. J'ai un peu peur de la température à midi.
Non, mais quand on monte en altitude, on a plus de vent et plus d'air.
Ok,
les gars ?
Ouais, tout roule.
Je m'appelle Youssef et lui, c'est Aïd. On vient de la tribu Alegat. Donc là, on va grimper à Sarabit El Kadem par ce chemin là-bas. Vous allez voir, c'est très rocailleux.
La balade part d'un petit village bédouin, encore accessible en voiture, à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer Rouge.
L'électricité et la route goudronnée, ici c'est très nouveau. Ça a 10 ans. Avant, c'était la nature pure. Ok, bon là on est sur le chemin des ânes. Parce que les Égyptiens, à l'époque des pharaons, ils traversaient le Sinaï par ici avec des ânes.
Et pourquoi, là, il y a des hiéroglyphes sur le rocher ?
Ah, ces inscriptions pharaoniques, ce sont des dessins de navires, c'est comme ça qu'ils arrivaient ici. Ils prenaient le bateau pour traverser la mer, le canal de Suez, et ils arrivaient jusqu'ici à Dodane. Ils venaient pour extraire les pierres de turquoise et les ramener au Caire. Attention, il y a des pierres qui bougent.
Ah, et moi j'ai mon pied où j'ai une entorse qui glisse et se tord toutes les 10 minutes.
Tu veux que je porte ton sac ?
Non, j'en suis pas là non plus.
Alors baissez un peu la tête par là. On est dans une grande cave. C'est ici qu'ils extrayaient les pierres turquoises. Donnez-moi un peu de lumière. Voilà, si vous voyez des petits points turquoises, c'est là la couleur.
Oh, waouh, ça brille avec la lumière.
Après 2 heures de marche, 600 mètres de dénivelé sur un chemin escarpé, nous voilà arrivés sur un plateau et plantés face à nous les piliers d'un temple en l'honneur de la déesse Hathor.
Sur chaque pierre, il y a un dessin de vache. C'est la déesse Hathor. Le temple est très exposé au vent et c'est pour ça que les stèles ne sont pas en très bon état.
Les pharaons ont décidé de construire un temple ici pour convaincre les Égyptiens de laisser leur famille, de laisser leur maison dans la vallée du Nil et de venir travailler ici, mais tout en ayant une bonne raison religieuse.
Ok, yalla.
Yalla, Yassine. Yalla, Anwar, yalla, yalla, Kourouzian.
Cette montagne s'appelle Ti.
Et Ti parce qu'il y a du thé ?
Non, c'est parce que Ti, ça veut dire perdu en arabe. Et c'est là que Moïse s'est perdu avec ses compagnons pendant 40 ans.
Il y a combien de kilomètres entre nous et cette montagne ?
10 kilomètres. Elle est très importante pour le Sinaï. Quand vous regardez une carte, vous voyez qu'elle va du golfe d'Aqaba au golfe de Suez. Ça coupe le nord du sud du Sinaï. Et personne ne peut la traverser. Il y a juste quelques passages étroits pour des chameaux.
Ah, c'est comme une barrière naturelle.
Oui, naturelle et déserte. Et là-bas, il y a des postes de l'armée qui surveillent le ciel, pour voir s'il n'y a pas des avions ou autres qui tentent de traverser. Il y a aussi des Bédouins qui vivent à côté. Ils savent détecter quand il y a des traces de pas d'un inconnu, donc c'est pour ça que c'est sécurisé.
C'est ma première randonnée dans le Sinaï. Je suis un peu fatiguée, mais heureuse. Pas de réseau, pas de Facebook, pas de WhatsApp, c'est vraiment relaxant.
Pour ramener des touristes ici, on a travaillé tous ensemble. Avant, on se rencontrait pour les mariages ou quand il y avait des problèmes entre tribus. Mais avec ce circuit de randonnée, on apprend les uns des autres. Moi, j'ai appris beaucoup sur les plantes en marchant avec la tribu des Jebalaya. Avant, j'utilisais le thym juste pour mettre dans le fromage. Et eux, ils m'ont appris que c'était bon à boire quand on a froid ou de la fièvre. C'est important pour nous. Et j'espère qu'on aura plus de touristes l'année prochaine. C'est une mine d'or ici, on veut juste que d'autres la voient.
Voilà, et toutes les belles choses ayant une fin, je dois vous extraire du sud du Sinaï pour retrouver Ariane Lavrieux cette fois. Ariane, vous êtes avec nous depuis le Caire, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, question sécurité d'abord. On comprend que le Sinaï est coupé en deux. On a eu un aperçu enchanteur du sud. Que se passe-t-il dans le nord ?
Depuis 2014, Daesh mène une guérilla contre les forces de sécurité égyptiennes avec des attentats meurtriers presque toutes les semaines. Ils sont concentrés sur une petite bande de terre de 250 km² à la frontière avec Gaza. Il y a 10 mois, l'armée a lancé une nouvelle opération militaire avec des milliers d'arrestations, fermetures de routes, bombardements de maisons et de champs soupçonnés d'abriter des djihadistes. 35 000 soldats sont présents sur place. On n'en sait pas beaucoup plus car les médias y sont interdits. En tout cas, les conséquences sont très lourdes pour les populations civiles, souvent victimes collatérales.
On a l'impression que ce que vous décrivez est vraiment un autre pays que celui où vous êtes allé vous balader.
Bah, c'est vrai, parce que si Daesh a un petit peu de soutien au nord du Sinaï, il n'en a pas du tout au sud, qui vit principalement du tourisme. Et puis j'étais quand même à plus de 300-400 km du conflit, à la même distance, hein, si vous voulez. Vous avez le site de Petra en Jordanie, où les touristes vont toujours.
Alors c'est justement pour encourager les touristes à venir que les Bédouins du Sud ont créé ce trail du Sinaï il y a 2 ans. Est-ce que ça a permis de créer des emplois ?
Oui, même si c'est encore à petite échelle, chaque randonnée d'une semaine avec 10 randonneurs, c'est au moins une vingtaine d'emplois directs, chameliers, guides, ravitailleurs. Ça fait vivre 5-10 familles pendant un mois. Et au-delà de l'intérêt économique, c'est aussi un enjeu culturel. Parce que s'il n'y a plus de touristes, les Bédouins vont devoir partir dans les villes pour travailler, vont perdre leur connaissance de la montagne, de la faune, de la flore. Ouais. Le Sinai Trail veut préserver cette transmission de savoir. Youssef, que vous avez entendu, il a 30 ans, il a appris son métier par son grand-père et le transmet aujourd'hui à ses jeunes neveux.
Voilà, et je crois qu'il nous a donné envie de filer tous dans le sud Sinaï avec son équipe. Merci beaucoup Ariane de nous avoir emmenés dans votre sac à dos. Vous étiez au Caire, depuis le Caire avec nous. À bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
À suivre, changement d'univers, mais on reste au chaud. Dans un instant, direction la Guadeloupe pour découvrir ce qui est un fléau aux Antilles, les sargasses, des algues toxiques.
Europe 1, les carnets du monde.
Nous sommes avec Sophie Larmoyer jusqu'à 14h et maintenant un coup de projecteur sur un fléau qui touche les Caraïbes, les sargasses.
Si vous êtes allé aux Antilles ces dernières années, vous en avez sans doute vu des bancs entiers d'algues verdâtres qui dérivent près des côtes et parfois s'échouent sur les plages. Il s'agit des sargasses qui prolifèrent et pourrissent littéralement la vie des habitants car en séchant, elles dégagent des vapeurs toxiques d'hydrogène sulfuré et d'ammoniac. 2018 aura été une année record pour les Antilles. Des écoles avaient même dû fermer en mai dernier en Guadeloupe. Et c'est là qu'on va justement en Guadeloupe pour faire un gros plan sur ces sargasses. Aujourd'hui dans les carnets avec Corinne Boulou qu'on a rejoint au tout petit matin. Bonjour Corinne.
Bonjour Sophie.
Vous nous avez fait vivre toute la semaine ce final de la route du Rhum, l'arrivée échelonnée des bateaux et de ces champions des mers. Indirectement concernés d'ailleurs eux aussi par ce fléau des sargasses. Hein.
Oui, en effet, ce phénomène est pris au sérieux hein, jusqu'à la direction de course qui alerte les navigateurs sur les bancs de sargasses pointés au large des Antilles. Et on comprend pourquoi en écoutant François Gabart, deuxième de la Transat, qui n'en a pas croisé cette année, mais qui s'en méfie.
On avait en effet, pour nous c'était une information météo. Alors elles étaient relativement sud cette année. Nous on est arrivés plutôt par le nord-est, donc c'est aussi pour ça qu'on n'en avait pas vu. Mais dans les autres catégories de bateaux, peut-être qu'il y a des stratégies qui amèneront les bateaux plus au sud. Et en arrivant par le sud-est en tout cas de la Guadeloupe, là ça peut vraiment devenir problématique. Ouais. Bah, les bancs de sargasses c'est quand même des bancs qui peuvent être assez épais. Alors nous avec nos bateaux rapides, s'il y a du vent, on peut imaginer les traverser, mais ça ralentit quand même déjà beaucoup. Et potentiellement s'il n'y a pas beaucoup de vent ou avec des bateaux moins rapides, c'est vrai que limite le bateau il peut rester bloqué presque. Hein. J'ai le souvenir moi il y a 4 ans en Imoca, être passé, alors pas dans des gros bancs, mais en tout cas dans des zones avec beaucoup de sargasses. Bah, je suis passé, hein, mais c'était compliqué, parce que ça se prend dans les safrans. Quand le safran, il est plein d'algues, du coup, le bateau, il est plus ou moins incontrôlable. Donc ouais, c'est pour la navigation, en tout cas, c'est une vraie difficulté. Et je parle pas, évidemment, pour les Guadeloupéens, les, de manière générale, les gens qui habitent dans les Caraïbes, parce que pour eux, c'est un vrai fléau, c'est assez terrible.
Et moi, en avion, Sophie, j'en ai vu, hein, très au large de la Guadeloupe, des filaments géants, que l'on appelle aussi des radeaux, qui dérivaient en Atlantique.
Alors les habitants, justement, vous êtes allés à leur rencontre, Corinne, d'abord pour prendre la mesure des nuisances.
Oui, c'est vrai qu'ici, c'est un fléau, hein, comme le disait François Gabart. Les populations sont en première ligne, des restaurants ont dû fermer. Ouais. 3 écoles ont même été temporairement évacuées cette année par précaution. Les ados Louise, Thomas et Marie racontent quels sont les signaux d'alerte de présence des sargasses.
Au début, on pensait que c'était, je sais pas, des œufs pourris ou quelque chose comme ça. Puis plus on se rapprochait de la plage, plus ça sentait fort. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des algues brunes qui étaient sur la plage et qui dégageaient une odeur vraiment immonde. Donc il y a des moments où on avait des haut-le-cœurs, c'était vraiment horrible.
Je savais pas comment c'était avant, mais d'après ce qu'on a entendu dire, il y en avait pas autant. Il y avait une saison pour les sargasses et maintenant c'est vrai qu'apparemment il y a plus de saison, il y en a vraiment toute l'année, ça arrive par radeau, ça se dépose sur les plages et donc on sait pas quand ça arrive.
Bah, un jour on a fait une balade qui durait 2 heures, c'était assez loin mais on sentait quand même l'odeur et à la fin et bah, on avait mal à la tête.
Corinne, est-ce qu'on a une idée du volume d'algues échouées et qu'est-ce qui est mis en place ?
Oui, alors cette année, entre mars et fin août, 1250 m3 d'algues toxiques ont été en moyenne ramassées par jour, Sophie, par jour.
Par jour.
Vous imaginez bien que la surveillance sanitaire est un enjeu majeur dans ces conditions, comme nous l'explique Florelle Paramandis, directrice de la santé publique à l'ARS, c'est l'agence régionale de santé ici en Guadeloupe. Alors la population est-elle suffisamment informée ?
Il n'y a jamais suffisamment d'informations et donc c'est pour ça que nous avons entamé donc courant juillet et courant août des déplacements dans les zones où les échouages ou les échouements étaient les plus importants. Donc nous sommes allés à Sainte-Anne, nous sommes allés à Petit-Bourg, nous sommes allés aussi à Capesterre de Marie-Galante et donc nous avons tenu donc des réunions d'information aux professionnels de santé. C'était très utile et nous avions avec nous, outre donc les personnes donc de l'ARS, nous avions aussi le toxicologue qui officie donc au CHU de Fort-de-France et qui lui relatait aussi son expérience d'accueil ou tout au moins de service offert aux personnes qui se sentaient bien vulnérables, bien fragiles vis-à-vis donc de ces situations-là ou parce qu'elles manifestaient effectivement des troubles. C'est vrai que les médecins peuvent vous dire que ça pique, que ça donne des nausées, que ça gratte, des maux de tête, les yeux larmoient ou alors qu'elles manifestaient une certaine, pas une dépression, mais enfin bon, vraiment un mal-être. Un mal-être parce que c'est vrai que ça peut engendrer des troubles qui sont ceux-là. Et tout l'objet, c'est aussi de se dire que, bon, puisqu'on va très certainement rentrer donc, dans des phases chroniques, d'échouement chronique, adaptons-nous et faisons passer donc le message le plus possible aux personnes. Mais tout le système sanitaire est en ordre de marche pour une réaction.
Oui, et sachez qu'à Petit-Bourg, la commune la plus exposée ici, plus de 3700 consultations ont été recensées liées aux sargasses.
Est-ce qu'on peut prévenir l'arrivée massive de sargasses ?
Oui, tout à fait. Alors avec la télédétection par satellite et depuis septembre, des capteurs ont été mis en place en divers endroits de l'île. L'organisme Guader est chargé de récupérer les mesures de gaz produits par les sargasses pour lancer l'alerte si besoin. Sa directrice Christina Ragomandant nous en explique l'importance.
Nous, notre application, elle est quotidienne. Nous avons déployé un dispositif de surveillance de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac, qui sont les deux principaux gaz émis par la décomposition des sargasses sur le littoral, sur plusieurs sites en Guadeloupe, 24 pour être plus précise, et nous effectuons une remontée quotidienne des concentrations qui nous sont émises sur 24 heures. Donc nous avons une carte qui est diffusée à l'ensemble de la population via notre site internet et sur celui de notre agence régionale de santé, mais également une information plus précise à destination des collectivités et communes qui doivent faire leur ramassage sur les sites qui sont les plus impactés sur 48 heures au maximum. L'idée, c'est vraiment d'éviter leur décomposition et donc l'émanation de ces gaz dans l'atmosphère. Voilà, on ne va pas attendre midi pour demander à une commune d'organiser avec son service technique le ramassage.
Alors, même si actuellement, Sophie, nous sommes en période basse d'échouage, des réunions bi-hebdomadaires sont organisées avec tous les services de l'État, de la région et des collectivités pour faire le point de la situation. Alors, une fois que ce constat est établi, eh bien, il faut bien évacuer.
Voilà, et on comprend qu'il faut les ramasser très vite, sous 48 heures, mais est-ce qu'on peut, on peut pas les récupérer, finalement, empêcher qu'elles arrivent sur les plages ?
Alors, des moyens terrestres sont engagés pour les évacuer, en mer aussi, mais face aux échouages massifs, Sophie, les sargators, ces bateaux capables de les récupérer, ne sont plus suffisants. Oui, les sargators. Une barge aspirateur est à l'étude, comme nous l'a confirmé le sous-préfet de la Guadeloupe, Jean-Michel Jumez, en charge de la mission Sargasses.
Ce qui a été la caractéristique de l'année 2018, c'est les volumes qui se sont échoués. On avait déjà du matériel d'enlèvement, vous évoquez le sargator, mais le sargator permet de traiter des petits volumes. Aujourd'hui, avec les volumes qui s'échouent, il faut trouver d'autres formules. Et nous travaillons actuellement avec le Conseil régional sur un dispositif d'aspiration qui permettrait d'aller soit depuis la rive, soit depuis la plage, aspirer les sargasses et traiter des volumes qui sont lourds, puisque les machines que nous souhaitons mettre en place, et il y en aura trois, peuvent traiter 500 mètres cubes à l'heure.
Et une fois qu'elles sont récupérées, ces sargasses, Sophie, qu'est-il possible d'en faire ? Réponse du sous-préfet Jumez.
Les algues sont toxiques à partir du moment où elles s'accumulent. Donc l'idée, c'est de les enlever le plus rapidement possible, les emmener sur ces sites d'épandage et les épandre sur des couches qui ne peuvent pas dépasser 10 cm. Là, ça permet de sécher les sargasses, et à partir de ce moment-là, elles deviennent inertes et n'ont pas de conséquences en matière sanitaire.
Et ce phénomène des sargasses a un coût énorme pour l'État, puisqu'il a déjà coûté cette année 3,5 millions d'euros. 1,5 million sera également consacré à la construction de cette barge capable d'aspirer les algues toxiques. Et il faut dire que ce fléau impacte les populations, mais aussi toute la filière économique et touristique de l'île. On comprend pourquoi les sargasses sont placées sous haute surveillance. Sophie.
Évidemment, ça impacte le tourisme, on le comprend, et comme elles sont belles ces îles. Merci beaucoup Corinne, et à très bientôt, rentrez bien.
À très vite.
Europe 1.
Un petit dernier voyage pour la route. On va se mettre dans les pas de l'ami Joseph Chovanec qui nous rejoint un peu à cheval sur les horaires, Joseph.
Europe 1, les carnets du monde.
L'émission touche à sa fin, Sophie Larmoyer. Si je vous dis qu'il est philosophe, autiste Asperger et surtout grand voyageur, et oui, c'est le moment de retrouver Joseph Chovanec.
Son regard sur le monde est souvent un peu différent, singulier, pour notre plus grand plaisir dans les carnets. Bonjour Joseph.
Et bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors votre regard aujourd'hui est un peu braqué sur la montre.
Mais oui Sophie, laissez-moi m'expliquer. Je passe ma vie à aller de conférence en conférence et il faut résoudre un point délicat à quelle heure exactement cela commence et à quelle heure ça se finit.
Ça semble être une question plutôt simple a priori.
Non Sophie, ce n'est pas une question simple, bien au contraire, selon le pays, la culture, le type de public, etc. Les horaires indiqués ont un sens variable, très variable même. Ça vaut y compris en France métropolitaine. Si un horaire de début de conf est théoriquement fixé à 18h, en Alsace, mentalement, j'ajouterai 5 minutes de retard au démarrage, 30 ou 40 minutes en région PACA. Ah,
carrément. Et hors de France alors?
Ben là, on passe à la dimension supérieure. En Suisse alémanique, ce qu'on appellerait la vraie Suisse, entre guillemets, avec les chalet, tout ça, les gens arrivent un bon quart d'heure à l'avance et restent assis en silence, regardent leur montre. Le début doit se faire à la seconde près et la fin aussi hein, d'ailleurs. Même si c'est intéressant, les gens s'impatientent si on déborde ne serait-ce que de quelques instants. Par contre, les événements dans les pays où les gens n'ont pas vraiment de montre ne se font pas selon des horaires précis. Dans les îles du Pacifique, les choses se font selon un rythme très particulier qu'on appelle là-bas le Island Time, hein, le fuseau horaire des îles.
Et alors, comment ça marche concrètement, le Island Time?
Par exemple, Sophie, si vous voulez fixer rendez-vous à des amis, vous direz à la tombée du jour. Ou au contraire, le matin, c'est une période un peu floue entre le lever du soleil et midi, généralement plutôt vers midi, parce qu'on dort au lever du soleil. Hein. Dans l'état souverain de Niue, vous savez, cette superpuissance.
Je rappelle, 260 km² à peu près, 1600 habitants.
Et encore, c'est très généreux. Donc, dans l'état souverain de Niue, il en va de même pour les jours de la semaine. Comme il n'y a qu'un seul vol d'avion par semaine en général, on désigne les jours comme étant le jour de l'avion ou celui d'après. Hein. Comme ça, on est sûr de retrouver ses amis. Bon, à vrai dire, ils n'habitent jamais bien loin hein, et on ira leur rendre visite de toute façon, rendez-vous ou pas. Je crois, Sophie, que les sociétés qui pratiquent le retard sont des sociétés où le lien social est très intense. Les gens se contactent sans cesse entre pour se passer des informations et socialise évidemment pendant les temps d'attente. D'autre part, chacun fait partie d'un groupe. Par exemple, la grande famille d'un tel. Lorsque un tel est au courant que la conf aura lieu demain soir, il mettra tout le monde au courant aussi.
Bah oui, mais demain soir à quelle heure, Joseph? C'est la question.
Et là, ça se complique. C'est que ça dépend aussi de la nature du public. Sans surprise, quand l'événement est fait pour des camarades autistes, quel que soit le pays, ils seront là, parfaitement ponctuels. Les soucis commencent quand l'assemblée est mixte, autiste et non autiste. Et parfois même, on frôle l'incident diplomatique. Au Maroc, une amie française d'origine qui est installée là-bas depuis plus de 60 ans m'a rapporté cet incident assez grave. Un jour, elle avait été conviée à une audience de Son Altesse Sérénissime, la princesse Lala Hasna, sœur de Sa Majesté le Roi. Comme de coutume, mon amie arrive avec un retard assez conséquent sur l'horaire.
Ça se fait là-bas.
Voilà. Selon la coutume marocaine habituelle, à ceci près que la famille royale marocaine est parfaitement ponctuelle. Son Altesse Sérénissime, la princesse, l'attendait en silence et les conseillers étaient consternés. Bref, soyons à l'heure et pour ça, soyons bien en lien.
En lien, tous les uns avec les autres. Merci Joseph. Quant à nous, on vous attendra dimanche prochain quand le soleil sera au zénith, à peu près.
Ou juste un peu après.
Ou juste un peu après. Merci.
Merci.
Europe 1.
C'est la fin, l'heure de refermer nos carnets du monde. Merci d'avoir partagé ces balades avec nous. Si vous voulez retrouver des reportages, les partager, pourquoi pas, et bien sur europe1.fr, le podcast de l'émission vous attend. C'est Julien Blanc qui a réalisé l'émission cette semaine. Florence Gimalac m'a aidé à les préparer. Merci à eux. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien.